Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 7 mars de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur Spotify en cherchant La Forêt des Possibles ou sur Radio Galère dans la rubrique Écoforum. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, probablement que, comme nous, vous vous posez plein de questions. La planète va mal, la société est sous tension. Et puis, nous avons tellement de questions du quotidien, notre famille, notre santé, notre logement, notre travail. Alors, comment concilier tout ça? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Que faire quand tout nous dépasse? Vite, il nous faut de l'air. Prenez le temps de vous poser. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et aux actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Elles et eux se sont aussi posé ces questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement aux autres. Ils et elles se sont engagés, ont créé leurs projets qui répondent à des problématiques du territoire. Et surtout, ces projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que, vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les limites et les ressources de la planète. En tout cas, nos invités témoignent semaine après semaine que c'est possible. Je suis Marin Moffret, accompagné ce soir de Claire Mayou.
Bonsoir.
Et de Lucille, dont c'est la toute première émission. Et bienvenue à toi, Lucille. Mais
merci.
Je sais, est-ce qu'on t'entend bien le micro?
Tu m'entends là?
Et oui, on t'entend très bien.
J'ai réussi le test.
J'ai réussi le test et bienvenue dans notre équipe. Et ce soir, nous recevons Clotilde Delattre. Clotilde, que je connais depuis le mois de juillet, parce que tu travailles chez Intermate, dans lequel le projet de la Forêt des Possibles a été incubé, et dans Intermate, tu travailles plus spécifiquement sur un de ces projets qui s'appelle la Fabrique à Initiative, et c'est tout ce dont on va parler ce soir. Bonsoir Clotilde.
Bonsoir, et merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là.
Eh bien, ravi, et je suis ravi aussi de pouvoir être de l'autre côté, après avoir été souvent parmi les personnes qui recevaient toutes les propositions de conseils d'Intermade, et là, de pouvoir à mon tour mettre en avant ce que vous faites. Et donc, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous savez, on a ce concept du moi au nous et du nous au tout qui permet d'aller des questions les plus personnelles vers les dynamiques territoriales qui, à leur échelle, permettent de transformer la société. Et donc, on va commencer par te donner la parole pour que tu te présentes, tout simplement.
Ça marche. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mes parents, de base, viennent du Nord-Pas-de-Calais, très haut dans la France, Valenciennes. Et ils sont descendus quand j'avais 5 ans. Et j'en suis très contente, descendue dans le sud, dans le Vaucluse, parce que c'est une région que j'apprécie particulièrement. Et du coup, ouais, je suis très contente qu'ils aient fait ce choix-là. Finalement, j'ai beaucoup parlé de territoire et de ville et tout ça, parce que par la suite, avec les études, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal de villes en France, Montpellier, Lyon, Saint-Étienne, pour continuer sur les études. Et peut-être ça explique ce lien au territoire, c'était en lien justement avec les politiques urbaines. Et notamment, le nom du master que j'ai fait a un nom assez drôle, il s'appelle Alterville. Et ça pose un peu le principe de stratégie urbaine alternative. Et déjà à l'époque, on parlait un peu de ESS, d'économie sociale et solidaire, de développement local. Et mon passage à Saint-Étienne, moi, il a été super important au niveau militant et personnel, parce que je pense que Saint-Étienne nourrit pas mal de similarités avec Marseille. D'ailleurs, je sais que sur le plan musical, il y a des petites collaborations entre certains collectifs musicaux. Et donc, Saint-Étienne, elle a une histoire assez forte, notamment par rapport à son passé ouvrier. Et je ne vais pas partir sur une parenthèse historique, mais désindustrialisation, tout ça. Et la ville, elle a connu de grandes difficultés. Mais dans cette difficulté, il y a eu énormément de dynamiques de solidarité, d'entraide. Et du coup, tu as toutes ces dynamiques dont les valeurs sont restées assez fortes. Il y a un milieu associatif qui est hyper dynamique. Et notamment, moi, ça m'a permis de m'engager sur la préparation d'un festival queer qui s'appelle Charbon Paillettes. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup formée en tant que militante, jeune femme militante. Et ensuite, j'avais très envie de revenir à Marseille. J'ai toujours eu un lien avec cette ville, notamment parce que des amis y étaient depuis un certain temps. Et donc, c'était vraiment une finalité pour moi de revenir à Marseille. J'ai toujours été super attirée par cette ville, par ses énergies, par sa beauté, par ce qui s'y passe, enfin un peu l'imprévu, quoi. Et donc, très contente d'avoir pu retourner à Marseille, d'abord à Yes We Camp, qui à l'époque, du coup... mettait en place, je crois, pour la deuxième année, un diplôme universitaire sur les espaces communs ou tiers-lieux ou espaces intermédiaires, enfin tout un tas de terminologies pour désigner des espaces où, en gros, qui veulent créer la mixité, la rencontre et proposer plein de choses différentes. Et je pense que si je me suis retrouvée là aussi, c'est parce que la notion de commun, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, notamment c'était l'objet, un des sujets travaillés dans mon mémoire, et notamment sur comment est-ce que dans ces espaces donc, de tiers-lieux qui se revendiquent des communs, on peut créer la mixité, l'inclusion de toutes et tous. Et du coup, voilà, une expérience qui était plutôt chouette parce que ça m'a permis de participer ou en tout cas d'être présente sur des projets différents, notamment Foresta. À l'époque, c'était le Jardin de la Vierge Dorée aussi. Et donc voilà, d'être reconnectée en plus à une facette marseillaise assez chouette que je connaissais pas jusqu'ici. Et voilà.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'émission vise à inviter chacun et chacune à trouver sa juste place et de réussir à trouver une cohérence entre son parcours, donc le moi, puis le collectif, le nous, et dans un but social, le tout. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une arrivée en région PACA très jeune avant de repartir, et puis tu as eu envie de revenir. Ça, c'est un premier point, donc sur l'aspect de le lieu où tu veux t'y trouver. Donc, il y a la question de la place géographique. Il y a eu la question aussi, j'ai entendu, sur des questions identitaires, quand tu parles de ce festival queer, avec tout un aspect militantisme, où là aussi, la question de sa place, c'est aussi... en tant que personne, qui je suis, et puis par rapport aux autres, comment je m'inscris dans ces relations-là. Il y a la question qui est liée ensuite à comment est-ce qu'on fabrique la ville, comment est-ce qu'on y vit ensemble, comment est-ce qu'on trouve des espaces alternatifs pour faire plus de commun. Ça, c'est tout ce que... Enfin, je restitue ce que tu dis. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça va faire un peu le lien avec la suite, parce qu'on va retrouver un certain nombre de ces points marquants avec ce qui se passe... chez Intermade, et donc c'est touchant de voir que finalement il y a déjà des prémices qui existent avant de faire ce sur quoi on travaille maintenant. Et j'invite celles et ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions à eux aussi à se dire que en fait chaque semaine quand on reçoit aussi des personnes qui présentent leur parcours qu'on puisse s'y retrouver, se dire ah tiens ça me parle ou voir ça me parle pas du tout
c'est possible aussi
mais que si ça vous parle pas que vous ayez vous-même votre propre chemin, votre propre voie, des choses à donner à ce monde. En tout cas, merci pour cette première présentation. Et donc là, on passe du moi vers le nous. Et donc, je t'invite, Clotilde, à pouvoir faire ça en deux temps. Présenter dans un premier temps l'ensemble, on va dire, de Intermade et la Fabrique à Initiative. Et dans un deuxième temps, parce que c'est un vrai carrefour de plein de personnes qui se retrouvent avec des intérêts croisés, on proposera une petite série de questions qui vont animer celles qui nous écoutent et celles et ceux qui nous écoutent pour incarner tout ce que tu nous dis.
Ça marche.
Donc, je commence et je t'invite à tout simplement nous présenter ce que c'est qu'Intermade.
Ça marche. Alors, Intermade, c'est ce qu'on appelle un incubateur. Je reviendrai juste après sur ce terme-là. Mais en tout cas, c'est le plus vieil incubateur de France. Je crois qu'il a été créé dans les années 2000. Et au départ, c'était un foyer jeunes travailleurs. Là aussi, dans les détails, je ne pourrais pas vraiment expliquer dans les détails, mais globalement, c'est des personnes plutôt jeunes qui ont des parcours compliqués ou des difficultés. Et là, l'objet, c'était donc déjà de sécuriser un toit au-dessus de sa tête et ensuite de créer une activité d'utilité sociale. Et donc c'est intéressant de voir cette genèse-là qui était quand même aussi très marquée de la part de la structure. Et après, globalement, un incubateur, c'est une structure qui accompagne à la création d'activités, de projets, mais qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Et donc Intermède, tu as plusieurs parcours d'accompagnement.
Je précise qu'il y a plein de termes sur lesquels on reviendra un peu plus tard, sur tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, les incubateurs. Je ne te pose pas trop de questions maintenant, comme ça tu peux dérouler. Mais celles et ceux qui se disent ça veut dire quoi, sachez
on
que...
On y revient dans un instant.
On y reviendra et vous aurez réponse à vos questions. Mais vas-y, je te laisse
continuer. Carrément. Du coup, de cette mission d'accompagner des personnes qui souhaitent créer des activités, nous, notre proposition, le cœur de métier... Du coup, incubateur, incubation, ça se traduit en fait par des parcours d'accompagnement. Donc, selon le stade d'avancement de l'idée d'un projet, parce qu'au départ, ça part toujours d'une idée, parce que peut-être il y a eu un constat problématique, une situation d'injustice qui a suscité chez toi l'envie de réagir, d'agir. Et cette envie d'agir, elle peut se traduire par un projet, quoi. Et donc, du coup, selon le stade de maturité, donc là, l'idée... parfois, on en est à un stade aussi de la création d'activités. Il y a des parcours qui sont plus ou moins indiqués. Et donc, voilà, le but, c'est de rentrer dans l'un de ces parcours. Et nous, on propose tout un tas de formations, mais pas que, beaucoup aussi en fait, de rencontres avec des entrepreneurs ou des projets qui ont déjà été créés, qui sont solides et qui peuvent inspirer, donner des conseils, donner lieu à des coopérations. Donc ça, c'est un premier volet. Après, on a aussi un autre métier, ou en tout cas, ça se traduit par un autre pôle d'activité qui est le partage et transfert. Parce que quand j'évoquais du coup l'ancienneté d'Intermède, forcément, c'est cool si on arrive aussi à consolider des savoir-faire, des approches métiers. Et du coup, ça, on essaye de le diffuser à d'autres acteurs de l'accompagnement, parce que des incubateurs, il y en a beaucoup en France. Et donc, voilà, on est dans cette espèce de... logique apprenante où on apprend autant des autres que également de la manière dont nous on met en place certaines choses pour créer du lien entre les projets, entre les personnes. Intermède, c'est aussi un lien très fort avec une autre structure de Marseille, La Ruche, qui elle incarne plutôt un tiers-lieu. Et donc il y a vraiment des allers-retours entre La Ruche et Intermède, notamment parce que La Ruche propose des espaces de travail. Et donc, généralement, quand des structures sont créées côté Intermède, eh bien, elles peuvent être hébergées à La Ruche pour démarrer leur activité et puis bénéficier de tout le foisonnement qu'il y a dans ce lieu-là, parce que je ne sais pas combien il y a de structures, mais sûrement une vingtaine qui ont tout un tas de sujets différents. Et donc, ça crée des discussions, ça crée une dynamique collective. Et de la même manière qu'Intermède, je ne l'ai pas précisé, mais basé à La Friche, La Belle de Mai, qui est aussi un lieu foisonnant à son endroit d'énergie créative, culturelle, artistique, et qui incarne aussi un lieu d'expérimentation et de test. D'ailleurs, à votre endroit, vous l'incarnez aussi. Mais donc voilà, des lieux comme La Friche ou celui de La Ruche, ça ouvre énormément d'opportunités. Et donc, notre métier, c'est aussi de créer des liens, des connexions, des synergies. Et ça me permet peut-être de rentrer sur la fabrique à initiative, qui est là où je travaille plus précisément. Et la fabrique à initiative, c'est une méthodologie de projet, en gros, qui passe par plusieurs phases, notamment celle du diagnostic. Donc, à partir d'une problématique sur laquelle on peut être interpellé et qui relève d'enjeux de santé, de fractures numériques, d'accessibilité alimentaire, comme justement par rapport à la variété des sujets d'intervention, on essaye d'avoir une connaissance un peu plus fine des besoins qui sont connectés à ce sujet d'intervention, d'où la phase de diagnostic. Et pour agréger tout un tas de connaissances et affiner cette compréhension du sujet, forcément on va rencontrer des acteurs qui ont un lien, mais pas que, tout un tas de parties prenantes en fait, qui nourrissent un lien avec le sujet. De sorte du coup à approcher un peu plus précisément c'est quoi qui bloque, qu'est-ce que ça crée en fait vraiment comme problèmes sociaux ou environnementaux. Et ces personnes-là, on essaye de les embarquer ensuite dans une deuxième phase qui est celle de l'idéation. Et idéation, ça fait encore un gros mot, mais en gros c'est juste de produire des idées de manière collective en réponse au problème social qui a été un peu plus défini. Et généralement en fait ces réponses, elle s'incarne par des scénarios d'activité, en fait, des projets. Et ces projets, ben forcément, il faut aussi un petit peu les structurer. Et donc là, on passe sur la troisième phase, qui est celle du prototypage. Et en fait, ça correspond à penser, mais comment elle va concrètement fonctionner, cette activité, ou ce lieu ? Qui est-ce qui va participer ? Quels sont le socle de partenaires ? Le modèle économique aussi. Et ensuite, la dernière étape, c'est celle de la transmission. Parce que la fabrique à initiative, elle n'est pas porteuse de projet, elle n'a pas vocation ensuite à développer l'activité. Et là, l'enjeu, c'est celle de transmettre à un acteur qualifié ou à une personne qui a été identifiée tout au long du processus et qui a cette envie aussi, en fait, de déployer la solution qui a été conçue de manière collective par le groupe projet mobilisé sur l'action.
Merci, Clotilde. Là, si je restitue ce que j'ai entendu et ce que j'en ai compris, il y a toute la partie de faire émerger des projets avec l'incubation et puis de partager le savoir-faire, de faire émerger des projets à d'autres pour qu'il y ait plein de projets qui émergent à Marseille, mais pas que, avec d'autres antennes dont on ne parlera pas ce soir parce qu'ici, on s'oriente quand même sur ce qui se passe à Marseille, mais et d'autres antennes d'intermède, mais aussi accompagnées d'autres structures, dans des lieux avec la ruche, avec la friche, où il y a énormément de choses qui s'imbriquent, qui s'entrecroisent pour situer là d'où nous parlons. Nous sommes sur Radio Galère, qui est littéralement au bout du couloir de là où se trouvent les locaux d'intermède, reçus par la Forêt des Possibles, qui a été incubé par... Intermade.
Ouais, c'est marrant de voir les liens qui se tissent et se créent et qui sont déjà d'ailleurs préexistants et en fait de prendre connaissance de tout ce puzzle.
Exactement. C'est tout un puzzle et la fabrique à initiative vise aussi à ce que j'en comprends avec 1. La partie diagnostic, 2. La partie idéation, 3. La partie prototypage et 4. La partie transmission, à savoir mettre un peu d'ordre dans ce puzzle-là. et ce que l'on propose, c'est que comme c'est un grand hall de gare où imaginez un peu comme c'était des spaghettis, c'est plein de spaghettis qui s'entremêlent avec des choses qui forment un tout cohérent mais où on peut se dire de l'extérieur « Waouh, qu'est-ce que ça implique pour moi ?» Eh bien, on va faire un peu des parcours. Et on va à chaque fois proposer le regard d'une personne par rapport à ce qui est proposé par Intermade et donc comprendre en fait en quoi ça agit quotidiennement et concrètement pour nous. Donc, est-ce que donc Claire et Lucille qui sont de l'autre côté du micro veulent commencer ? Sinon, je peux le faire.
Moi, je peux commencer si tu veux. Alors, par exemple, si je suis une citoyenne de Marseille, j'habite dans le 3e arrondissement, dans le quartier de la Belle de Mai, pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à Intermade ?
Ah ben ça tombe bien, écoute, j'ai vraiment une proposition pour toi. Non, mais pour revenir aussi sur la fabrique, j'ai parlé de la méthodologie, mais concrètement, l'objectif, c'est de créer là aussi des activités d'utilité sociale. C'est juste qu'elles viennent s'inscrire en réponse à un besoin particulier. Et du coup, pour répondre à la citoyenne, l'habitante de la Belle de Mai, actuellement, la Fabrique à Initiative, elle travaille sur une action soutenue par la ville de Marseille à faire émerger un commerce de proximité et de l'économie sociale et solidaire pas très loin de la place Cadenas. Parce qu'actuellement, la ville de Marseille, elle a une politique de redynamisation des noyaux villageois. Il y a un peu l'histoire selon laquelle Marseille, c'est... l'assemblage de 111 noyaux villageois. Et donc, du coup, la Belle de Mai en fait partie. Et donc là, le but, c'est de faire émerger un commerce, mais grâce à la méthode que j'ai décrite juste avant. Donc, en fait, de mobiliser des habitantes qui ont cette expertise du quotidien, en fait, pour déjà parler de l'existant. En fait, il y a déjà 4-5 boucheries ou 7 boulangeries. C'est peut-être pas là que le besoin se situe. Et aussi parler des habitudes, quoi. Enfin, comment ça se passe, comment tu vis le quartier. Et à partir un peu de cette expérience, de cette trajectoire, d'essayer du coup d'identifier un besoin. Et peut-être que ce besoin, il résonne avec d'autres besoins que j'ai entendus et qui ont été formulés par d'autres habitants et habitantes ou d'autres acteurs du quartier. Et puis si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin... rejoins-moi dans un cycle d'idéation, de participer à des ateliers où généralement on va faire appel à des supports assez créatifs, des cartes ou plein d'autres techniques créatives, de sorte à faire émerger tes idées et puis à valoriser surtout ton expertise et que les habitants retrouvent ce pouvoir d'agir sur leur quotidien et sur ce qui va se passer dans leur quartier.
On entend donc qu'une des premières propositions d'Intermate, c'est de pouvoir identifier des besoins d'habitants, d'habitantes de la ville et de chercher concrètement à créer des synergies d'acteurs pour y répondre. Deuxième personne, je m'appelle Marin, je porte un projet qui s'appelle La Forêt des Possibles et nous sommes en juin 2023. On me dit que j'ai une bonne idée qui m'a été soufflée par la personne qui travaillait à la Réserve des Arts à l'époque, qui s'appelle Louise-Anne Roy, et qui me dit « Ah, j'ai travaillé avec Intermède, il faut être bien accompagné, va les voir ». Qu'est-ce que vous allez me proposer ?
Tu pourrais presque répondre à cette question, en fait.
Je peux le faire, mais là, je te pose la question.
La manière dont ça fonctionne quand tu as un projet comme ça, nous, il faut savoir qu'il y a des appels à projets. Il y en a deux par an. Généralement, du coup, ils s'ouvrent début mai, si je ne dis pas de bêtises, et début décembre. Et donc, en fait, un appel à projet, tu peux candidater. Donc, tu déposes un dossier sur lequel tu décris à quel objet social tu réponds, avec quel acteur tu as déjà discuté et qui te conforte sur l'idée que ça serait bien que cette initiative elle émerge sur le territoire et à Marseille. Tout un tas en fait, de questions quand même assez précises sur ce que tu as déjà pu préfigurer. Et à partir de là, nous, on va échanger autour d'un moment de discussion avec notamment d'autres projets qui ont pu participer, parce qu'on essaye aussi de voir comment t'interroger avec cet écosystème-là. Et puis, si jamais le dossier il s'inscrit dans les valeurs d'Intermède et que ça répond bien à ce que l'on souhaite développer, t'intègres un parcours d'accompagnement et ça te permet de structurer l'activité. Et là, le parcours d'accompagnement, on disait au début, ça dépend du stade de maturité, de ton besoin de développement. Si c'est celui de la création, pour reprendre l'exemple de la forêt des possibles, tu vas plutôt passer par le starter. Et donc là, il va y avoir des choses liées à la modélisation économique, donc ta gestion financière, comment s'exprimer à l'oral pour parler un peu de l'extérieur de ton projet et le rendre intelligible. Aussi, forcément, il y a des dimensions juridiques sur la création. Quel est le bon statut juridique approprié pour cette structure-là ? Et puis, quelles seraient aussi les autres personnes à rencontrer pour, là encore, faire grandir, phosphorer et enrichir le projet ?
Merci, Clotilde. Effectivement, je confirme que c'est extrêmement challengeant, parce que c'est une formation. Le starter, je vais parler du starter parce que je ne connais pas l'autre programme qui est celui de la couveuse, qui est celui de l'après-idéation, où on a un programme de 3 mois, où c'est tous les mardis, en tout cas quand j'y étais, c'était tous les mardis, où on a un thème spécifique et où en fait il faut charbonner fort entre les semaines sur ce thème-là et avec un ou une accompagnateur, accompagnatrice qui relie ce qu'on fait, qui challenge, qui aide à voir les angles morts, qui permet de prioriser les actions à mener, etc. Je confirme que c'est très formateur et que le cadre est structurant pour se poser les bonnes questions. Et je continue ce petit parcours. Tout à l'heure, j'ai parlé de Louise-Anne Roy. Louise-Anne Roy, elle est passée par Intermate. C'est pour ça qu'elle m'en a parlé. Et ce n'est pas la seule personne qui m'en a parlé. Louise-Anne Roy, elle était donc à la Réserve des Arts. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Pierre-André Aubert, qui est du Présage. Et donc, en fait, ce sont des structures de l'ESS qui sont implantées à Marseille et qui sont passées par vous. Et donc, la question que je me pose, c'est maintenant que je suis une structure établie dans la ville, quels sont les liens qui perdurent ?
Eh bien, là, je peux reprendre ma casquette fabrique. Parce que vraiment, c'est hyper précieux d'avoir toute cette communauté en fait, de projets qui ont été accompagnés par Intermade. Très concrètement, tu vois, le Présage, il y a un an et demi, je travaillais sur une étude qui essayait d'identifier les synergies à activer entre, d'un côté, le monde de la restauration et, de l'autre, l'économie circulaire. Et le Présage, qui se veut un restaurant à énergie solaire, mais qui a plein d'autres facettes, faisait partie en fait, des restaurateurs, des professionnels interrogés pour savoir très finement, en gros, au niveau de tes fournisseurs, tu vas voir qui comme producteurs locaux, qu'est-ce que tu essayes de faire au niveau des contenants, des emballages, et puis en fin de filière, le traitement des déchets alimentaires. Parce que, pour ne pas revenir sur l'action, mais en gros, tu as 3 points d'entrée comme ça, 3 points de contact entre d'un côté économie circulaire et restauration. Et donc en fait, tout ça, ça nous permettait, à partir de leur retour de terrain, leur expérience, d'identifier en gros les trous dans la raquette, ce qui est actuellement, enfin à l'époque du coup, dans la filière de la restauration, était peut-être pas assez travaillé, où il n'y avait pas encore de solution mise en face d'un enjeu en particulier sur la filière restauration. Et ce qui a émergé de cette étude, par exemple, c'était le coût carboné de la logistique, notamment du dernier kilomètre dans cette filière-là, parce que tu n'as pas du tout d'optimisation entre les trajets de certains camions qui vont livrer tel et tel resto, quoi. Donc en fait, ça, si moi, je n'ai pas des professionnels, tu vois, qui en fait me font entrevoir leur quotidien professionnel et qui me permettent de repérer ce type de choses, c'est compliqué. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment une richesse de pouvoir faire appel à LE. Et là encore, bah, tu vois, pour reprendre l'expérience, en tout cas l'action qui vise à faire émerger un commerce de proximité sur la Belle de Mai, un des scénarios d'activité qui est envisagé, c'est celui de la ressourcerie, ou du, en tout cas autour du réemploi. Et bien là, actuellement, c'est pas que les anciens, il y a aussi les actuels. Notamment, je pense à un projet qui s'appelle la fibre solidaire. Et du coup qui va sûrement apporter plein de connaissances sur comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place des mutualisations au niveau des outils de travail, des équipements, et c'est quoi un petit peu les enjeux tu vois, dans la filière textile. Enfin, en tout cas, pour chacune des études ou des sujets sur lesquels moi je peux être sollicitée, c'est clair et net qu'en tant que projet du coup de l'ESS, je les considère en tant que partenaire vraiment. Et puis également, d'une fois que tu es consolidé, que tu es créé, en fait, pour aussi des fois proposer des réponses un peu plus d'ampleur, ça peut être intéressant de se rapprocher d'autres structures. Et nous, comme on a un peu toujours ce rôle d'être à l'interface de plein de dynamiques, on reste toujours un petit peu en veille d'une certaine manière pour se dire « Ah, mais ça serait pas mal qu'un tel ou une telle se rencontre, parce qu'en fait, il y a grave une complémentarité dans leur activité. Et s'ils se rejoignaient, enfin, ça proposerait un truc super cool, quoi. » Donc voilà, d'être un peu toujours dans cette veille-là pour essayer aussi toujours de leur être utile de la même manière qu'ils nous sont utiles.
Tu parlais du fait que vous ayez des commandes et le fait qu'il puisse y avoir de répondre à des besoins. Donc là, j'arrive avec ma petite casquette mairie centrale ou mairie de Marseille ou métropole pour éviter de discriminer l'une de ces deux institutions qui s'aiment si fortes l'une l'autre. Qu'est-ce que j'arrive chez Intermade, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?
Au niveau des collectivités publiques, du coup, plutôt.
Ouais.
Dans les faits, les collectivités locales et publiques, c'est vraiment des partenaires très importants pour Intermade, parce que c'est notamment les financeurs de la plupart des parcours d'accompagnement. Notamment, alors eux, leur point d'entrée, ça va être surtout le retour vers l'emploi. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de finalités que l'on partage pour certaines collectivités, en tout cas sur remettre l'économie au service de l'intérêt général. Et notamment, avec la casquette fabrique, moi, j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec ce qu'on appelle les équipes politiques de la ville, qui sont aussi présentes sur la ville de Marseille que de la métropole. Et en fait, on va travailler autour d'orientation commune, notamment, y a un document d'action publique, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais les contrats de ville. Donc les contrats de ville, c'est des choses qui sont un peu comme des schémas d'orientation, quoi, sur les priorités sur un territoire donné pour des populations. Donc généralement, les contrats de ville, ça va être adossé à ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, donc des territoires qui ont un peu plus de difficultés, notamment socio-économiques. Je crois que la manière dont c'est déterminé, c'est par rapport au revenu moyen par habitant. Et donc ces contrats de ville, ça va fixer des enjeux au niveau de la santé, de l'isolement des personnes âgées. Ça, c'est un gros sujet dans les quartiers prioritaires, sur l'accessibilité alimentaire. Et nous, en fait, on va essayer de travailler main dans la main avec d'un côté cet objectif d'intérêt général qui peut être incarné par du coup une collectivité. Et nous, en fait, par cette méthode d'intervention, cette posture d'ensemblier avec tout un tas de parties prenantes, on va essayer de coproduire une solution d'intérêt général par rapport à un problème que l'on partage, qu'on a communément identifié.
Merci Clotilde. On pourrait continuer à faire la liste, mais le temps tourne. Notamment, au moins poser la question de savoir si jamais je suis un financeur ou si jamais je suis une entreprise de l'économie classique, c'est ce qu'on s'était dit. Mais on va garder un petit peu de temps pour le débat qu'on s'est prévu dans la deuxième partie. Une fois qu'on a présenté ça, ensuite, le but, c'est que tous ces acteurs puissent œuvrer à une société vraiment qui soit plus durable et où finalement chacun joue sa juste partition. Et cette société plus durable, celle qui est portée en étendard par Intermate, c'est celle d'une économie sociale et solidaire. Et ça, on en parlera juste après la pause. Et donc, ce moment de respiration, je te laisse nous dire ce que tu as décidé de nous faire écouter.
Ouais. J'écoute beaucoup de musique, donc je me suis beaucoup creusé la tête. Finalement, je suis tombée sur Coucou de Meryl parce que je voulais trouver en tout cas un titre qui incarne un peu cette scène musicale trop chouette qu'on a en France au niveau du rap ou du hip-hop. Et moi qui écoute pas mal de rap, bah en fait Meryl, elle est top-lineuse. Alors je saurais pas te dire exactement, mais en fait elle a créé des mélodies et un peu des refrains très entêtants de beaucoup de tubes de rap français. Et donc voilà, c'est un peu une manière de faire, j'espère, découvrir ça aux auditeurs, auditrices. Mais je crois qu'elle a bien percé à l'époque. Du coup, c'est Coucou de Meryl.
Merci Clotilde et à tout à l'heure pour La Forêt des Possibles.
Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Ses mains à terre, ses fesses ont l'air et ses pieds en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mêmes posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la, même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle est ma vie. Akita, biala, oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. C'est la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Château et partout guili guili. Tu grattes la tête guili guili. Six tu dis guili guili. Cocop mégal guili guili.
Et elle danse à des gains, son petit côté américain. Elle danse comme une rafale de balles, elle me sait sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci.
Faut la laisser faire, elle est ma vie. Akita, biala, oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci.
Perfect.
Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili.
Coucou lala,
la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili.
Ça fait du bien, le silence. Le silence de quelques secondes juste après cette musique qui était moins silencieuse, mais qui était plus pleine d'énergie.
Du coup, on reprend. Vous êtes toujours sur Radio Galère, sur l'émission de La Forêt des Possibles. On continue avec Clotilde qui présente et représente Intermade Marseille, qui est un grand hall de gare de l'ESS de la ville. C'est quoi l'ESS ?
Ah ouais, on recommence direct comme ça. Alors, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On va surtout prendre quelques points en particulier, mais déjà, ça remonte à loin. l'économie sociale et solidaire. J'avoue, j'ai un peu regardé des notes avant de venir. Et en fait, il se trouve qu'il y a une charte de l'économie solidaire qui a été écrite en 1830. Et en fait, ouais, elle garde pas mal de principes en fait, de l'ESS moderne. Et en fait, c'est très lié à une logique mutualiste au sens de, en fait, aussi les coopératives. Et en fait, tout simplement, ce qui est derrière, c'est l'envie en fait, de gérer communément, enfin de manière commune, des ressources, des biens, etc. Et d'injecter un peu cette dimension ouais, collective, ouverte, partagée. Après, l'ESS, nous, on a une manière de le caractériser qui a aussi été finalement officialisée avec la loi Hamon en 2014, mais qui repose sur quatre piliers. Ces quatre piliers sont les suivants. D'abord, il y a l'utilité sociale, commençons par ça, ou environnementale. Et ou environnementale, elle s'imbrique souvent. Mais en fait, c'est surtout la finalité d'une activité de l'économie sociale et solidaire, c'est de répondre à un besoin en fait, social et ou environnemental. Ensuite, tu as l'ancrage territorial, parce que cette réponse, elle est souvent en fait, en face de situations ou de constats problématiques très localisés. Et donc de ramener un petit peu l'économie à une échelle plus locale. Donc cet ancrage territorial, ça traduit aussi l'attention à ce qui s'y fait déjà sur un territoire. Parce que c'est hyper important de ne pas faire de doublons, de tenir compte de l'existant, et puis surtout de s'y intégrer de manière harmonieuse. Ensuite, tu as le modèle économique qu'on dit hybride. C'est-à-dire que déjà, dans un projet de l'économie sociale et solidaire, tu dois penser une hybridation de ressources. Parce que avec du coup cet objet social, souvent tu peux avoir la possibilité d'être soutenu financièrement par des subventions publiques, mais il faut aussi avoir ses revenus propres. Et puis je dirais qu'un des principes, c'est celui quand même de la lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de quelques-uns, quelques-unes, mais les revenus sont réinjectés dans le projet. Et le dernier, c'est sur la gouvernance, donc des modèles de gouvernance voilà, qui peuvent se traduire par des statuts de coopérative. Mais souvent, en fait, on essaye d'impliquer l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par le projet.
Mmh. Et du coup, est-ce que être entreprise de l'ESS, c'est un label, c'est quelque chose qui est dans les statuts concrètement, est-ce que c'est un ouais. engagement que les entreprises prennent?
Alors effectivement, bah, du coup, la loi Hamon là, de 2014, dont je parlais rapidement, c'est celle qui crée l'agrément ESUS. Et si je ne dis pas de bêtises, l'acronyme, ça doit être Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Et donc, en gros, bah, effectivement, ça, c'est un effet de signal pour distinguer ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'économie dite classique. Et puis après, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ouvre à tout un tas d'avantages, notamment celui en fait, de pouvoir faire entrer des volontaires en service civique. De bénéficier de certains accompagnements comme le dispositif local d'accompagnement ou de bénéficier de certains avantages financiers fiscaux.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que le but de l'émission, c'est de parler du mot nous et du nous au tout. Et quand tu t'es présenté, tu as parlé en fait, des quatre piliers. Je ne sais pas si tu as fait exprès dans ta présentation, mais tu as quand même parlé un moment de l'ancrage marseillais PACA, donc la question territoriale. La partie des choses qui te tiennent particulièrement à cœur sur les questions d'identité, militantisme et refaire la ville de façon plus alternative. Tu as parlé de la question de la gouvernance et du commun. Et après, qui touche à la fois sur la question de la gouvernance, mais le commun, c'est aussi une certaine façon de construire un modèle économique. Mmh. Et donc, je trouve que ça découle sur qui tu es, ce que tu fais et à quoi ça œuvre.
J'ai plus qu'à me les tatouer et la fusion sera totale.
Ouais, comme tu veux. Moi, je le SS sur moi. Parce que si le E part, j'ai pas très envie.
Effectivement.
En plus, là, ce que tu m'as appris un truc, c'est le fait que c'était écrit, ça a créé dès 1830.
Ouais.
Et donc, ça s'inscrit déjà dans finalement tous les courants économiques et philosophiques du 19e siècle. Qui a été vachement marqué par la période industrielle, la façon dont on va remutualiser la ressource qui est faite avec un grand réagencement de la valeur. C'est quand même le moment où il y a le début du communisme, là, qui est le début de l'anarchisme, avec des auteurs comme Proudhon, avec Marx, et de voir que ça s'inscrit déjà à cette période-là, et que c'est un mouvement qui est toujours très vivant, parce qu'il y a un autre modèle qui est très complémentaire et que vous utilisez beaucoup, qui est celui de l'économie du donut de Kate Raworth.
Ouais, Carrément. Pour nous, c'est un peu une boussole parce que, effectivement, tu as vu, il y a plusieurs activités, plusieurs métiers qui sont dans l'organisation et du coup, ça nous permet un petit peu quand même d'avoir cet avenir, cet horizon partagé. Je sais que la théorie du donut, vous en avez déjà parlé pas mal dans l'émission, mais du coup, je ne sais pas si j'en dis deux mots, mais globalement, en gros, le principe consiste à rediriger l'économie vers la satisfaction des besoins humains fondamentaux qui sont considérés comme équivalents comparé à la pyramide de Maslow qui les hiérarchise. Et en fait, du coup, cette satisfaction des besoins humains fondamentaux, elle doit se faire en tenant compte des limites environnementales. Il y en a 9, je vais pas les citer. Mais en gros, voilà, c'est savoir un petit peu cet aller-retour entre l'économie, sa finalité, c'est celle de répondre à des besoins humains essentiels. Et je dois toujours avoir cette attention à les ressources en fait, environnementales, elles sont limitées. Et comment est-ce que je peux faire en sorte d'intégrer cette contrainte, mais qui est vertueuse, dans le développement de mon activité.
Et si ça s'appelle l'économie du donut, pour celles et ceux qui nous écoutent, visualisez-vous un donut. Vous allez avoir un cercle intérieur, un cercle extérieur. Et entre les deux cercles, donc la partie qui se mange dans le donut, c'est ce qu'on appelle l'espace sûr. C'est-à-dire que quand on est entre les deux, eh bien, on est dans un endroit où on peut vivre dignement. Alors que si on est sous le donut, donc dans le trou central, on ne va pas pouvoir répondre à nos besoins humains. Avoir accès à l'eau, pouvoir avoir une éducation, être en sécurité, être respecté dans ses spécificités. Il y en a d'autres. Et inversement, si on est au-delà du deuxième cercle, le premier c'est le plancher social, le deuxième c'est le plafond écologique, c'est que, ok, on arrive à répondre à nos besoins, mais on a tout éclaté au passage. Et donc on répond à nos besoins maintenant, mais pas pour le futur, parce que pour le coup, on a de l'eau, mais trop d'eau. On répond à nos besoins de confort, mais en utilisant beaucoup trop de ressources. Et donc ça va toujours pas. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de rester entre ces deux enjeux-là. Et aujourd'hui, les représentations planétaires montrent qu'on n'est bon ni sur l'une, ni sur l'autre des limites.
C'est pas trop une surprise, malheureusement. Mais ouais, tu fais bien de mentionner cette représentation visuelle, parce que Kate, pour le coup, je sais plus dans un entretien, mais je trouvais ça hyper intéressant qu'elle avait vraiment opté pour une représentation visuelle, parce que je sais plus combien on a de fibres de nerveuses dans le cerveau qui sont très en fait connectées justement à tout ce qui est visuel, et que du coup ça facilite la compréhension. Et ouais, franchement, c'est vraiment un paradigme puissant, je trouve.
C'est pour ça que la forêt des possibles et l'arbre des imaginaires, pour le coup, s'appuient aussi sur un imaginaire qui est très rassembleur, qui est celui de l'arbre, mais là, on n'en parle pas ce soir. tu parlais de ces questions, j'ai cru qu'on m'appelait, mais en fait, on ne m'appelle pas, parce qu'il y a un petit peu de bruit en dehors de ce studio. La question est maintenant de savoir ce que ça donne en pratique. L'économie, je vais poser une question un peu provocante. Est-ce que l'ESS, c'est l'économie des bisounours ?
L'ESS souffre quand même beaucoup, des fausses représentations. Par exemple, on se heurte souvent en mode l'ESS, ça correspond à des associations. Alors oui, mais pas que. Et de la même manière, en fait, des associations sont aussi des acteurs économiques. Moi, par exemple, Intermed, c'est une association, mais je crois qu'on a une équipe de 18 salariés. Donc, en fait, il y a des organisations, du coup, qui sont quand même assez structurées. Et je pense pas, non, que l'économie sociale et solidaire, ce soit celle des bisounours. Malheureusement, je pense que c'est la direction des gens raisonnés, plutôt. Enfin, parce que, justement, c'est la logique capitalistique qui est complètement, des fois, aberrante. On voit certaines choses. Je prends un exemple très précis. Bourlingue et Pacotille, c'est un projet qu'on a accompagné. C'est du transport de marchandises à voile sur le bassin méditerranéen. Donc, en gros, ils parcourent la mer Méditerranée. Ils vont, je crois, en Sicile, notamment pour les agrumes et tout ça. Et j'ai entendu parler du fait que ce transport de marchandises à voile était plus taxé sur les ports que les gros navires de fret que tu vois habituellement. Et ça, c'est juste l'illustration de comment actuellement le système économique dominant, mais il est tellement déconnant, parce que sur des choses qui coulent de sens, ben, les contraintes réglementaires vont pas du tout dans ce bon sens-là. Et donc, moi, je dirais pas que ouais, non, l'économie sociale et solidaire, c'est celle des, c'est un truc de bisounours, mais plutôt de bon sens.
Ah, j'ai posé la question parce que j'en ai mon idée, notamment pour avoir accompagné un projet de la ville qui s'appelle la Cité des Transitions, qui vise à fédérer les structures écologiques et solidaires de la ville, et d'avoir constaté que derrière les bonnes intentions partagées, il y a quand même la question des intérêts, des positionnements des uns et des autres, et qu'on reste malgré tout inscrit dans une économie qui est aujourd'hui capitaliste, et sur laquelle il faut créer de la valeur, et sur où moi j'ai pu identifier, mais je situe mon regard, c'est le fait de dire que bah, y a la question de son territoire, sa subvention, son modèle économique, la concurrence dans laquelle ça s'inscrit, puis ensuite il y a des questions de personnes, il y a le facteur humain, il y a des questions d'ego, il y a des questions de rapprochement politique vers telle ou telle structure qui finance mieux que d'autres, et si jamais je suis pote avec lui, bah, je ne serai pas pote avec l'autre. Et donc ça implique un certain micmac. Je ne sais pas si tu partages aussi ce regard.
Y avait beaucoup de choses qui étaient évoquées. Moi, ce que ça m'a... J'ai envie de rebondir sur effectivement une chose. Peut-être, je pense que le modèle de fonctionnement, par exemple, des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt, c'est vraiment des cadres qui nous, effectivement, mettent en concurrence ou parfois dont les délais ne permettent pas de créer des alliances qui auraient plein de sens entre des acteurs qui, bah, en fait, partagent l'envie de répondre à la problématique, tu vois, qui est sous-tendue par tel appel à projet, etc. Ou donc, ouais, je pense que déjà de sortir un petit peu de ce mode de fonctionnement qui met en concurrence. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus, effectivement, être trop naïf, entre guillemets, parce que nous, un terme qu'on utilise aussi, c'est celui de la coopétition, donc c'est la contraction entre compétition et coopération, parce qu'effectivement, il y a toujours quand même cette dimension où pour être viable économiquement, etc., je suis un peu décousue, mais quand on parlait du starter, un des modules, une des formations qui explorait ensuite de l'accompagnement individuel, c'est l'étude de marché. Donc l'étude de marché, c'est clairement un livrable ou en tout cas une recherche qui est aussi faite par des acteurs de l'économie classique, mais ça paraît néanmoins nécessaire pour quand même s'intégrer dans un écosystème, avoir une offre de valeur qui soit distinctive pour justement exister. Et donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas totalement idéaliser, c'est sûr, l'économie sociale et solidaire dans ses acteurs, etc. Il y a plein de sensibilités différentes. Enfin, là, on parle de l'économie sociale et solidaire, mais des fois, il y a aussi des terminologies de l'entrepreneuriat à impact. On parle aussi, des fois, on peut faire des confusions avec la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, effectivement, dans l'univers économie sociale et solidaire, il y a plein de sensibilités, il y a plein de, je dirais, degrés d'engagement plus ou moins prononcés. Et du coup, il faut un petit peu creuser, il faut aller échanger, rencontrer, se rendre sur place pour peut-être identifier quel est le courant ou certains acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous ressemblent le plus.
La question de la concurrence, elle est hyper compliquée, je trouve, parce qu'elle est aussi justifiée par des vraies bonnes raisons. Par exemple, le marché unique européen qui constitue une concurrence généralisée dans toute l'Europe a été construit comme ça pour pouvoir avoir des marchés ouverts dans lesquels la totalité des acteurs ont leur chance. Et ça a permis de créer une vraie intégration européenne et d'inscrire ça dans les marchés publics, surtout dans des villes comme Marseille qui ont été souvent, du moins, reconnues comme le fait de souvent donner le marché aux copains. Et donc de dire on reste entre nous parce qu'on coopère, ça a pu soit aller à l'encontre d'intérêts plus généraux, soit mettre de côté les meilleurs, ceux qui avaient les meilleures propositions, parce qu'ils n'étaient pas copains avec la personne qui décidait à la fin. Donc il y a vraiment cette espèce de tension, je trouve. Un concept que j'aime bien, mais qu'on n'aura pas le temps de pouvoir développer ce soir, c'est celui de la perma-économie, qui est notamment développé par le président d'Intermate, qui s'appelle Emmanuel Delannoy.
Ouais, tout à fait.
et qui est inspiré de la permaculture. Et donc, si jamais vous avez déjà fait de la permaculture, vous allez avoir chacune de vos plantes qui, individuellement, vont avoir des caractéristiques précises. Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup d'azote, pas d'azote, beaucoup de soleil, pas de soleil, beaucoup d'eau, pas d'eau. Et puis ensuite, on va voir quelle est la complémentarité que cette plante-là va avoir avec les autres. Et ensuite, c'est comme une sorte de grand puzzle où il s'agit d'essayer de positionner chacune des plantes à la meilleure place pour elles, pour qu'elles puissent pousser le mieux, et en même temps être complémentaire avec celles qui vont l'entourer, donc pouvoir aider les autres à mieux pousser sans affaibler le sol, et le tout dans la meilleure d'une efficacité productive en fait pour continuer à manger. Mmh. Je trouve que si vous n'avez pas fait de permaculture, c'est une expérience fascinante, et ensuite d'essayer de voir comment est-ce que ces principes-là qui sont d'ordre agricole peuvent venir essaimer dans la façon dont on peut inviter chacun et chacune à trouver sa juste place. En tout cas, c'est nous, c'est ça qu'on a envie de faire avec la forêt des possibles. C'est hyper intéressant, et je sais que ça fait quand même partie des choses qui sont pas mal déployées à Marseille. Enfin, pas à Marseille, à Intermade. Et je vois qu'il reste quelques temps, et Claire a une question à poser.
Ben, tu sais très bien la question que je vais poser, en fait, puisqu'il s'agit de la question finale. On aime bien demander à nos invités un petit travail de prospective et d'imaginer à quoi ressemblerait Marseille en 2030, qui a réussi sa transition.
Alors déjà, la première couleur qui me vient, c'est le vert. En 2030, il y aura beaucoup plus de vert à Marseille, mais de la végétalisation, en veux-tu, en voilà. j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de poches de respiration, parce que notamment pour être passé par une ville comme Berlin, c'est vraiment quelque chose qui est très réussi là-bas. Et franchement, ça serait trop chouette qu'on ait autant de petits jardins, de petites parcelles et de bulles vertes dans la ville, ça serait très cool. Ce à quoi je pense aussi, c'est parce que je trouve que Marseille, c'est quand même une ville qui incarne énormément de luttes et de militantisme, et notamment à la Belle de Mai. Et bah, moi, il y a des luttes qui me parlent plus que d'autres peut-être actuellement, notamment des pensées décoloniales ou intersectionnelles. Et j'aimerais bien que ces idées-là, elles soient réelles, enfin, au sens de complètement intégrées dans la société. Et quand je dis ça, c'est que décolonial, c'est qu'il y ait un vrai travail sur comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui s'est passé dans le passé, justement, pour en fait faire en sorte que ces oppressions elles soient plus aussi encore le cas aujourd'hui, quoi, qu'elles perdurent encore aujourd'hui. Et puis sur intersectionnel, j'ai surtout le truc de ça me fait penser à la programmation de la ruche, je crois au mois de mars, sur le mois des luttes des femmes, qui est désengenrée, parce que j'ai l'impression que si on sortait d'une société un peu binaire et de ces stéréotypes de genre, on serait quand même beaucoup plus apaisé entre nous. Et donc voilà, c'est du vert, du décolonial et moins de stéréotypes de genre.
Je pense que ça sera une parfaite transition pour le gang des gazelles qui se trouve juste derrière nous.
Ah, yes.
Et qui va continuer, d'ailleurs avec Laura, qui peut-être m'entend, mais je ne suis pas sûr, qui faisait partie de la programmation Intermade avec moi. Ce monde est fantastique parce que tout se connecte.
Ah, c'est vrai. Ah, trop chouette.
Eh bien, Clotilde, merci beaucoup.
Merci à toi, Marin.
Merci.
Et merci à vous dans la cabine.
Merci à toi, Clotilde. C'était super intéressant. Et merci, Marin, pour l'animation en chef, chef.
Et à Lucille et à Claire d'avoir assuré la régie, sans qui ça ne serait pas possible.
Avec grand plaisir.
Merci à tous.
À la semaine prochaine. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.